Le journal Stéphanie Wenker.
Bonjour, le Laténium envisage de transformer ses médiateurs et ses surveillants en communicateurs. Le concept est testé à Haute-Rive jusqu'à cet été à l'occasion des Dimanches Malins. Redonner vie au locle du 19e siècle. Une sélection de gravures retrace l'urbanisation de la ville au moulin souterrain. L'exposition est le résultat d'un méticuleux travail d'identification. En basketball, c'est l'invité surprise du Final Four de la SBL Cup. Union Neuchâtel affronte Vevey Riviera Basket cet après-midi en demi-finale à Montreux. L'entraîneur neuchâtelois Mitar Trivunovic attend une concentration de tous les instants de la part de ses joueurs. La couche de nuages restera bien présente aujourd'hui jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Les températures restent froides et renforcées par la bise. Le soleil devrait revenir demain. Une petite révolution est en marche au Laténium. Le musée d'archéologie envisage de transformer ses médiateurs et surveillants en communicateurs. 8 personnes de l'institution se sont formées en ce sens l'année dernière. But de l'opération, mieux accueillir le public et lui permettre de vivre une expérience unique. Les communicateurs présents lors des heures d'ouverture du musée pourraient alors proposer des petites animations, répondre aux questions et échanger avec les visiteurs tout en gardant un œil sur l'exposition. De quoi changer le quotidien des employés du Laténium, les explications de Daniel Dallagnolo, responsable de la médiation culturelle.
La question jusqu'à présent, les surveillantes et les médiatrices étaient sur appel. C'est-à-dire, en été, il y avait beaucoup de classes d'école, ils ont beaucoup de travail, et en hiver, ils n'ont pas de travail. Et l'idée, c'est plus d'être sur appel, mais d'avoir des horaires fixes pour 40%, 30%, 50%, 60%, suivant ce qu'on a besoin là, donc on fait les calculs. C'est-à-dire, il n'y aurait plus 20 médiatrices et surveillantes qui sont engagées à l'heure, sur appel, mais il y aurait 5 ou 6 personnes qui travaillent pendant plusieurs journées pendant la semaine.
Ce concept est testé lors des Dimanches Malins destinés aux familles. 3 heures durant lesquelles les médiateurs proposent des animations, échangent et répondent aux questions. Les Dimanches Malins se poursuivent jusqu'à cet été au Laténium. Ensuite, si la direction est convaincue, les surveillants et les guides pourraient se transformer en communicateurs. Le locle de 1800, comme si vous y étiez. 60 gravures et autres iconographies sont à découvrir au moulin souterrain du col des Roches dès demain. Une sélection qui illustre un siècle de changements urbains dans la mer commune et qui a fait l'objet d'intenses recherches. La conservatrice des moulins souterrains, Caroline Calam.
Le locle a beaucoup changé. La plus ancienne gravure date de 1785. Donc, il faut bien connaître l'histoire de la ville. On a des répertoires, heureusement, d'architecture qui permettent de dater certains bâtiments. Après, c'est un peu un jeu de piste. On identifie un bâtiment, donc on peut identifier celui qui est à côté, celui qui est un petit peu plus loin. Donc, de gravure en gravure, on arrive vraiment à avoir des repères, à avoir une habitude aussi et à pouvoir identifier les bâtiments.
Est-ce que toutes les gravures étaient datées également ?
Non, justement, c'est plutôt rare qu'elles soient datées, les gravures, certaines le sont. D'autres, au contraire, on va les dater en tenant compte de ce qu'elles représentent. Donc si un bâtiment a été construit en 1826, il est sur une gravure, elle est forcément postérieure à cette date. Donc on a vraiment les deux cas de figure.
La ville, elle a connu de grandes transformations à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. S'il fallait retenir un changement notable, ça serait lequel ?
On doit parler de l'incendie de 1833 qui va démolir tout le centre du Locle et qui va obliger à reconstruire autrement. Donc avant, on construisait un petit peu en désordre, à bien plaire. Après l'incendie, on aura des règles très strictes pour avoir ce plan en carré, ce plan orthogonal, dont le but était que l'incendie ne recommence pas, ou en tout cas pas aussi gravement qu'en 1833. Et ça va modifier totalement la physionomie du Locle.
Des propos recueillis par Maxime Crevoisera. Le vernissage de l'exposition se tient ce soir à 18h au Moulin Souterrain. Cette collection est également au cœur de la dernière publication de la nouvelle revue neuchâteloise. Au niveau national, Marco Chiesa appelle le PLR à des apparentements de liste avec l'UDC. Devant les membres réunis en congrès ce matin, le président du parti agrarien a estimé que c'est le seul moyen d'empêcher la gauche de progresser lors des élections fédérales du 22 octobre. Le conseiller aux États tessinois l'a accusé de détruire tout ce qui fait le succès de la Suisse. Et puis les Verts tenaient également leur assemblée des délégués ce matin. Pour ce parti, il n'est plus possible de tergiverser face à la dérive climatique. Le défi aujourd'hui, selon le président Balthazar Kletli, c'est de trouver des majorités politiques autour de ces questions. Le conseiller national zurichois espère que les Verts sortiront renforcés des élections fédérales du 22 octobre. Les PME suisses délocalisent leur production au Vietnam, en Thaïlande et en Inde, plutôt qu'en Chine. C'est ce que constate Simone Wiesfedele, chargée de la promotion des exportations suisses dans la Schweiz am Wochenende. Une escalade est anticipée du côté de Pékin, mais malgré les risques, la Chine reste très importante en tant que troisième partenaire commercial des entreprises suisses. Et cette nouvelle attaque armée ce matin à Jérusalem-Est, un père et son fils ont été blessés par balle par un Palestinien âgé de 13 ans. L'adolescent a été neutralisé et blessé selon un communiqué de la police. Une première attaque a déjà eu lieu hier soir lorsqu'un Palestinien a tué 7 personnes près d'une synagogue.
RTN, il est 12h21.
Sport.
Une page sport qui est présentée ce midi par Léonard Reichen. Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Et on prend la direction des Cirques Blancs.
Avec Marco Dormat qui est bel et bien de retour aux affaires. Déjà, on a envie de dire, une semaine après sa blessure sur la Streif à Kitzbühel, le Nidwaldien est en tête du Super G Homme de Cortina d'Ampezzo qui se tient en ce moment. Il devance de 35 centièmes le Norvégien Alexander Kilde et l'Italien Mattia Cassé de 49 centièmes. Côté Suisse, Justin Murizier signe également une belle 6e place à 1,05 secondes. Stéphane Rogentin est 12e, Gino Caviezel 16e. Chez les dames, Michaela Schifrin a signé le premier temps de la première manche du slalom de Spindlerhof ce matin. L'américaine a dominé de 29 centièmes l'allemande Lena Dürr et de 46 centièmes la slovaque Petra Vlova. Meilleure suissesse Wendy Holdener pointe au 4e rang et reste en course pour un podium. Deux autres suissesses seront de la partie en 2e manche. Nicole Good 20e à 2,23 secondes et Camirast 24e à 2,41 secondes. Deuxième manche à 12h30. Sabalenka s'offre un premier titre majeur. Arina Sabalenka qui a remporté l'Open d'Australie. À l'instant, la Bélarusse a dominé la championne de Wimbledon, Elena Rybakina, 4-6, 6-3, 6-4 en finale. On développera cette information dans notre journal de 18h en fin de journée. Les Neuchâtelois aux avant-postes de la chasse rallyenne de Vaudrusien ont remporté hier la course de ski alpinisme entre Nau et le Chasseral. Chez les hommes, Pascal Boux a bouclé les 3 km pour 606 mètres de dénivelé en 26 minutes 31. Il a devancé le fribourgeois Maxime Brodard et l'autre Vaudrusien Julien Villomnet. Chez les dames, c'est également une habitante des Hauts-Genevais qui a dominé les débats. Fania Vellet qui a terminé la course en 33 minutes 27 devant la Vaudoise Estelle Perriard et la Jurassienne Romane Gauthier. Dernière manche du trophée des Trois Fondus la semaine prochaine avec la verticale du Cré du Puy dans le Val-de-Ruz. Union Neuchâtel est dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue. Les Neuchâtelois disputent dès ce soir à Montreux le Final Four de la SBL Cup. Après avoir créé la surprise au tour précédent en éliminant l'ogre Fribourg Olympique, Union affronte ce soir Vevey Riviera Basket à 19h. Tandis que l'autre demi-finale opposera les Lions de Genève à Massagno. Le tirage était considéré comme favorable, mais l'annonce de l'arrivée dans l'effectif veveysan d'un certain Thabo Sefolosha, ex-suisse de NBA, a brassé les cartes. L'entraîneur Mitar Trivunovic attend une concentration de tous les instants de son équipe pour tenter d'accéder à la finale demain.
Premièrement, nous sommes heureux d'être présents à Montreux. Peu de gens pensaient nous trouver là. C'est donc une belle victoire pour toute l'équipe et le club. Nous allons faire de notre mieux pour gagner le match et disputer la finale. Nous devrons rester concentrés. L'équipe est motivée, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'être trop excités. Nous sommes une équipe jeune avec peu d'expérience. Nous devrons jouer notre match ensemble, jouer juste pour rester le plus longtemps dans le match. Si nous restons dans le match, Vevey aura plus de pression car tout le monde les voit comme favoris. Nous devons rester dans le match et nous aurons plus de chance.
We must try to stay in game and we will have more chance than Vevey if we stay in game.
Des propos traduits par Loïc Georgi, Vevey Union Neuchâtel, une rencontre à suivre ce soir en direct sur RTN dès 18h45. Sur la glace, les Ticino Rockets se trouvent sur le chemin du HC La Chaux-de-Fonds cet après-midi en Swiss League. Coup d'envoi de la rencontre à 17h sur la glace de la Gotardo Arena à Ambry. Le HCC se déplace chez la Lanterne Rouge avec le plein de confiance et 11 victoires consécutives dans les bagages. Il en faudra une 12e pour continuer à mettre sous pression le leader Holten. Analyse d'un coude à coude qui promet Jean-Paul Pitchy.
Tous les spécialistes s'accordent à le dire. Si la logique de ce championnat de Swiss League à deux vitesses est respectée durant les playoffs, la finale opposera La Chaux-de-Fonds à Olten. Reste à savoir qui terminera premier de la saison et aura l'avantage de la glace. C'est bien là le seul suspense de cette fin de saison. Les Soleurois comptent 3 points d'avance sur les Chaux-de-Fonniers. Il reste 4 matchs à jouer pour les deux formations. Olten a toutes les cartes en main pour garder son avance, mais le calendrier semble légèrement plus favorable aux Chaux-de-Fonniers. Abeilles et Souris affronteront Langenthal, Bâle et Viège. Mais tandis que le HCC se mesurera à la Lanterne Rouge ce samedi, Olten devra se défaire des coriaces jeunes zurichois des Getseka Lions le 3 février. Le suspense est toujours bien là. Reste la question de l'état de forme des deux équipes. Le curseur penche ici légèrement vers le HCC. Les Abeilles ont remporté leurs 11 derniers matchs. Sur la même période, Olten s'est incliné à 3 reprises, dont une fois contre le HCC. Offensivement, avec 56 buts marqués, les Chaux-de-Fonniers comptent 16 réussites de plus que les Soleurois sur la même période. Ils ont aussi encaissé 12 buts de moins qu'Olten, malgré une défense décimée par les blessures. Mais ces statistiques devront se vérifier dans les faits, dans une saison régulière qui vit son sprint final.
Et ce match Ticino Rockets HCC est à suivre ce soir sur RTN dès 16h45. On termine par une annonce de match en Première Ligue. Le HC Uni Neuchâtel qui n'a plus son destin entre ses patins pour atteindre les playoffs. Les Aigles accueillent Sarine Fribourg ce soir à 17h30 au Littoral pour le dernier match de la saison régulière. Il compte 3 points de retard sur le 8e Saint-Imier qui accueille Sastal. Les Imériens qui n'auront besoin que d'un point ce soir pour se qualifier. Bon appétit.